demande un peu, même beaucoup d'indulgence, il n'est jamais facile de venir témoigner. Au début du carême 2010, j'ai été contactée par une paroisse pour venir témoigner de mon parcours de vie. Le thème de leur rencontre était « Jésus qui sauve, Jésus qui guérit ». À froid, j'ai répondu catégoriquement par la négative, prétextant que ce n'était pas possible, je n'étais pas prête à témoigner en public. Mais cette demande ne quittait plus mon esprit. Je ne parvenais plus du tout à me concentrer sur mon occupation du moment. Alors, je décide de me tourner vers le Seigneur et je compris à cet instant que c'était Jésus qui m'appelait maintenant à venir témoigner de ce que j'étais devenue aujourd'hui, de ma rencontre avec ce Père du ciel, celui qui était tout simplement venu me chercher au cœur de mes ténèbres, ce Jésus sauveur qui m'avait relevé, guéri de mes blessures, qui m'avait libéré des chaînes de mon passé. Là, ce moment-là, je repris contact avec cette paroisse pour leur dire que j'acceptais leur demande d'intervention. J'invoquais l'Esprit Saint. « Esprit Saint, viens m'inspirer par ta lumière. Donne-moi la grâce de venir toucher les cœurs de ceux qui entendront mon histoire. » Je ne pouvais plus faire marche arrière. Je m'étais engagée à témoigner. Lorsque je suis arrivée ce soir-là timidement, comme un peu maintenant, je ne connaissais presque personne. J'ai pris un temps de prière à genoux devant la croix. Ma voix était tremblante. L'Esprit Saint est alors descendu sur moi. Il m'a donné la force et le courage nécessaires pour prendre la parole. L'Assemblée ce soir-là, comme vous tous ici maintenant, ignorait ce que j'allais lui livrer. Mais moi, dans mon fort intérieur, imprégné de cette histoire familiale qui vous colle tant à la peau, lourde de toutes conséquences, je mesurais les mots que j'allais déverser. Mon histoire personnelle très atypique, je vais maintenant tenter de vous la résumer. Donc, je m'appelle Martine, à ce jour j'ai 54 ans. Je suis divorcée, je n'ai aucune cellule familiale et je n'ai pas d'enfant. Mon père était chauffeur routier en bâtiment et travaux publics. Mon père était un papa absent, il est décédé à l'âge de 54 ans. Ma mère était nourrice agréée de la DAS. Nourrice agréée, ma mère. Oui, vous avez bien entendu. Incompréhensible, complètement surréaliste, ma mère a été reconnue officiellement et administrativement comme une bonne mère, puisqu'elle va obtenir cet agrément de la DAS. Pourtant, c'est de la même femme que je vais vous parler dans un instant, qui s'est conduite envers moi comme une bête sauvage. Elle est décédée à l'âge de 49 ans. J'ai eu une enfance et une adolescence très perturbées. Certes, j'ai été très bien éduquée, et si j'ai un merci à dire à mes parents, c'est un merci de base éducative que j'ai reçu. Ma mère était une femme très méchante et très autoritaire. Elle ne m'a jamais aimée. Ma mère m'a rejetée en tant que fille dès ma plus petite enfance. J'étais son souffre-douleur sur qui elle jetait sans cesse son venin. Elle criait toujours après moi, me battait avec tout ce qui lui passait sous la main, m'enfermait régulièrement dans ma chambre, parfois au pain sec et à l'eau. Et cette punition pouvait durer plusieurs jours selon son humeur du moment. Toutes les corvées ménagères de la maison étaient pour moi et je devais aussi m'occuper des gamins qu'elle gardait. Je n'avais que le droit de me taire et d'exécuter sous ses cris et ses coups. Hormis mes devoirs scolaires, je n'avais aucun répit. Elle me trouvait de toute façon toujours quelque chose à faire. Lorsque j'ai eu 13 ans, j'ai découvert que ma mère commençait à boire. Ma mère est devenue une très très grande alcoolique puisqu'elle prenait jusqu'à 2 cuites par jour. Et là pour moi, c'était l'enfer jusqu'à des heures infernales. Le soir, puisqu'en fait, elle prenait une première cuite le matin. On rentrait du collège et souvent, on n'a jamais manqué de nourriture, mais le repas souvent n'était pas prêt parce qu'elle était dans un état tellement déjà second par rapport à l'alcool qu'elle n'était pas capable de préparer le repas. Elle se couchait pour récupérer de cette première prise d'alcool du matin et elle se relevait quelque temps après notre rentrée du fin de collège. Et cette deuxième prise d'alcool donc commençait en fin d'après-midi et pouvait durer jusqu'à très tard dans la nuit. Des fois, ça pouvait être minuit, 1h, 2h du matin. Et tant qu'elle n'était pas couchée, elle pouvait débarquer dans ma chambre. Donc moi, j'arrivais pas du tout à m'endormir, d'où je porte encore des séquelles aujourd'hui par rapport à mon sommeil, tellement cette période de la nuit pour moi était très insécurisante. Elle pouvait débarquer dans ma chambre, me tirer de mon lit pour me taper, me demander de ranger ma chambre à 2h du matin. Donc pour moi, cette deuxième prise d'alcool le soir était l'enfer. Ma mère, je vais être vulgaire, mais je refuse toujours de venir témoigner si je ne suis pas en complète vérité dans ce témoignage. Ma mère m'insultait de tous les noms. À 13 ans, j'étais une salope, j'étais une putain. Ma mère me répétait sans cesse que je n'étais qu'une merde, bonne à écraser dans un caniveau. J'entendais ça 10 fois par jour. Donc oui, en grandissant, devenant adulte, j'ai cru que j'étais cette merde. Elle me disait toujours que je ne serais qu'une traînée, qui ne ferait jamais rien de bien de sa vie. Mais ça, j'ai envie de vous dire, ce n'était que le hors-d'œuvre, puisque le pire n'était pas encore arrivé. Le pire, ma mère me crachait à la gueule avec une certaine jouissance dans les yeux, me disant « Ma fille, tu ne mérites que ça ». Voilà comment j'ai grandi auprès de cette mère perverse et alcoolique. L'école restait pour moi le seul échappatoire à mes sévices corporels et psychologiques. Mais mes parents refusèrent catégoriquement que je fasse des études secondaires. Je suis donc sortie du système scolaire très jeune, à 15 ans et quelques mois. Et au mois de septembre, mes parents m'ont placée, le jour de mes 16 ans, ça tombe, en plus je suis du mois de septembre, donc ça les arrangeait bien, le jour de mes 16 ans, en guise de cadeau d'anniversaire, j'ai été placée comme bonne chez les patrons. J'avais donc 16 ans, j'avais toute une propriété à entretenir, j'avais deux enfants sous ma responsabilité, et je devais faire tout le ménage, le repassage, etc. de cette propriété. Voilà comment j'ai quitté le système scolaire avec un unique diplôme. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un devant vous qui n'a aucun diplôme. J'ai quitté le système scolaire uniquement avec un BEPC. Et voilà comment donc je suis rentrée dans le milieu professionnel. Un jour, évidemment, plus je grandissais, moins je supportais ce climat familial, ces insultes, ces coups gratuits au quotidien. Donc un jour, je me suis rebellée face à ces insultes et ces coups, et ma mère ce jour-là n'a pas compris, parce que jusqu'à maintenant, j'étais le petit toutou tous les jours qui recevait les coups, les insultes, les crachats, mais qui se taisait. Et ce jour-là, je me rebelle. Ma mère, donc de cette rébellion, je me suis battue avec ma mère, nous en sommes venus aux mains. Et de cette bagarre, ma mère me dit « Si t'es pas contente, tu prends la porte ». Et j'ai dit « Oui, maman, la porte, je vais la prendre ». Et pareil, elle ne s'attendait pas du tout à ce que je lui réponde ça. Elle m'a mis au défi, moi je l'ai pris au défi jusqu'au bout. Elle m'a dit « Si tu passes la porte, tu prends toutes tes affaires parce que tu ne reviendras jamais ici ». Et je l'ai regardée, et je lui ai dit « Oui, maman, la porte, je vais la prendre ». Et je suis allée dans ma chambre chercher mes affaires. Et voilà comment je me suis retrouvée mise à la rue par ma mère à 17 ans et demi, alors que ma mère gardait des enfants de la DAS à domicile. Deux ans se sont passés sans que mes parents ne se soucient de savoir où leur propre fille dormait. J'étais mineure, à la rue, complètement paumée, pas savoir où j'allais aller dormir le soir même. Deux ans sans que mes parents se soucient de savoir ce que je devenais. Bien sûr, plus je grandissais, dans ma tête, je refusais en fait le modèle de ce que j'avais reçu chez mes parents. Et en fait, je me disais, la famille, le mariage, l'amour, c'est ça. C'était l'image et ce que j'avais eu chez mes parents, de fait qu'en plus j'avais pas le droit de sortir, j'avais pas d'amis, donc j'avais le droit d'aller nulle part, et donc j'avais pas d'autres modèles. Donc je me suis dit, c'est ça se marier, c'est ça créer une famille, et donc ça m'a fait peur. Et je refusais de reproduire ce schéma, et puis en même temps j'étais pas du tout celle que je suis aujourd'hui, puisque toute la violence que ma mère avait inculquée en moi, j'ai grandi avec cette violence, et j'étais moi-même violente, et j'avais beaucoup d'agressivité envers moi. Donc il n'était pas question dans ma tête que je reproduise ce schéma. Bien sûr, je vais continuer à grandir, les années font que tous les ans, chacun prend une année, et je vais... J'ai oublié de vous dire, en fait, au moment où je suis partie de chez moi, malgré tout, j'avais quand même l'envie d'apprendre un métier. Et puis comme ma mère m'avait répété tous les jours pendant des années que j'étais qu'une merde, qui ne ferait jamais rien de bien de sa vie, je pense que quelque part aussi je voulais lui prouver que j'étais capable de faire autre chose. Donc tout en travaillant, je vous ai dit, je faisais des ménages, je faisais des journées de 10 heures à 12 heures de ménage par jour, ça a duré pendant 8 ans, je me suis payé moi des cours par correspondance. Donc je travaillais le soir, mais surtout les week-ends, parce que je voulais vraiment faire autre chose de ma vie. Et donc par le biais de ces cours par correspondance, j'ai préparé des concours administratifs, et c'est par ce biais des concours que je suis rentrée dans la police. Aujourd'hui, j'ai 28 ans de police nationale à mon actif. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez quelqu'un devant vous qui n'a aucun diplôme. Ça ne m'a pas empêché, intérieurement en police, de continuer les concours internes, de gravir les échelons. Et j'ai quitté la police il y a 2 ans volontairement pour aujourd'hui m'occuper des jeunes. J'ai fini à la tête d'un service de police avec 15 personnes sous mes ordres. Donc quand je témoigne beaucoup devant des jeunes, et je leur dis, vous voyez, même avec un mauvais départ dans la vie, avec un petit peu, enfin peut-être beaucoup de volonté, de courage et de persévérance, on peut toujours s'en sortir. Je ne vous dis pas que ça a été facile, mais j'y suis arrivée. Voilà pour ma parenthèse professionnelle. Donc au cours de mes premières années de police, je vais rencontrer quelqu'un. Et cette personne, au début de notre relation, il va y avoir un coup de foudre, et je lui dis, moi ça me fait peur en même temps, je suis contente, et en même temps j'ai peur de cette relation, parce que n'ayant jamais reçu d'amour, je me sens incapable de lui en donner, et en même temps j'ai besoin que lui m'en donne énormément, tellement j'ai soif de cet amour que moi, Martine, je n'avais jamais reçu de mes parents. Je lui fais part de mon parcours, mais vraiment je ne rentre pas dans les détails, et je lui dis, on va peut-être faire un bout de chemin ensemble, mais surtout, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de famille, il n'y aura pas d'enfant. L'image que je vous ai dit tout à l'heure, elle était très présente en moi. Néanmoins, on s'aimait, je me suis dit, il a insisté au bout de 2 ans, et puis je me suis dit, peut-être que moi aussi, finalement, j'ai le droit au bonheur. Donc, au bout de 2 ans, donc à l'âge de mes 30 ans, on va se marier. Au moment de mon mariage, je suis âgée de 30 ans, tout mon passé de maltraitance, il est bien, il est là. Il est bien au chaud, au fond de mes tripes, de mes entrailles. Mais ce que je ne sais pas, moi, à ce moment, et c'est ma mission aujourd'hui auprès des jeunes, quand je vais témoigner, ce que je ne sais pas, moi, à ce moment-là, c'est que ce passé, qui est bien là, dans le livre je parle de gangrène, et c'est exactement ça, j'ignore à ce moment-là que ce passé, il ne va pas tarder à me rattraper. Pour vivre en paix, il est essentiel de mettre des mots sur nos blessures et de cicatriser nos plaies intérieures qui saignent encore en nous. Évidemment, ma relation de couple a été très très difficile à cause de ce passé qui était enfoui au fond de moi. On n'apprivoise pas. Un chien battu et maltraité du jour au lendemain. Ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande beaucoup d'écoute et beaucoup d'amour de la part de l'entourage. Comment vivre? Comment grandir? Comment devenir femme et mère, moi à qui on avait tout simplement volé mon enfance et mon adolescence? Ce passé, je vous ai dit, allait pas tarder à nous rattraper. Effectivement, mon mari a été relativement patient, mais au bout de, je crois, la première fois, 4 ou 5 ans, voilà. Je vais tomber enceinte une première fois, et moi, bien sûr, moi, je n'en veux pas, mais par amour pour mon mari, je ne me respecte pas dans cet acte, par amour pour essayer de fonder une famille, je vais tomber enceinte une première fois. Et là, explosion, c'est une cocotte minute qui explose. Je suis suicidaire, je suis en mal-être profond, je ne vais pas bien du tout. Et du coup, cet être, je n'en veux pas, tout simplement. Le refus que ma mère avait eu de moi, je l'ai ressenti à ce moment-là. Je vais subir une première IVG. Ma vie reprend son cours. Je reprends mon boulot, ma vie de couple avec cette épreuve à traverser. 1 an et demi, 2 ans plus tard, je vais tomber une deuxième fois enceinte. Et là, j'ai toujours pas fait de travail sur moi. Donc je vois pas pourquoi j'accepterais plus la deuxième fois que la première fois. Parce que de toute façon, mon passé est toujours bien... Il est bien au chaud. Moi, il continue à me détruire. Donc cette deuxième fois, je l'accepte pas plus que la première. Mais là, on me dit, enfin un médecin me dit, il serait peut-être temps quand même de commencer un travail sur vous, parce que je donne pas cher de votre peau. Lui avait compris que j'étais sur le fil du rasoir. Et donc je commence un travail de thérapie dans l'espoir de sauver cette grossesse. Je n'y parviens pas, parce que j'étais tellement détruite, j'étais une personne détruite. Donc je vais subir une deuxième IVG. La vie reprend son cours, mais cette fois-ci, j'ai un suivi psychologique dans un centre de maternologie, toujours dans le but de mener peut-être à terme une grossesse quelque temps plus tard. Je vais tomber enceinte encore 2 fois, et là, je vais faire 2 fausses couches. Là, je comprends à ce moment-là, et là, je me dis, merci maman, tu as tout détruit en moi. Et bien sûr, 4 tentatives de grossesse, mon mari à ce moment-là a compris que j'étais dans l'incapacité de mener à terme une grossesse, donc de fonder une famille. Mon couple n'a pas survécu à toutes ces épreuves. Moi, je l'aimais encore énormément, mais un soir, il est rentré, je lui dis, on va arrêter là. Je n'ai pas le droit de ne pas te rendre ta liberté et toi d'être heureux de ton côté. Donc, d'un commun accord, nous avons divorcé pour qu'il puisse fonder, lui, une famille. Ce divorce, pour moi, a été de nouveau dans ma vie une déchirure parce que tout s'écroulait encore une fois dans ma vie. Et en plus, je me suis retrouvée une deuxième fois à la rue puisque mon mari était militaire, un logement de fonction, et on m'a donné une date butoir et on m'a dit à telle date que vous soyez partie du logement. Pas de famille, je ne savais de nouveau pas où aller, c'est des amis qui m'ont récupérée. Au moment de mon divorce, donc je peux vous assurer que j'allais de nouveau très très mal. De toute façon, dans ma vie, ça a été crescendo jusqu'en bas. Et donc, je me retrouve une deuxième fois à la rue, plus de mari, plus de famille, plus de logement, plus rien. Et 3 semaines après le départ de mon domicile, je partais au travail j'étais en région parisienne, à l'époque j'étais flic en région parisienne. Et un matin, donc très tôt, à 5h30 du matin, je vais me faire péter ma voiture et on va me voler mon sac à main. Alors des fois, les jeunes, j'arrive à les faire rire, je leur dis, vous voyez, même un flic, ça peut arriver de se faire casser sa voiture et de se faire voler ses papiers. C'est ce qui m'est arrivé, moi, ce matin-là. J'ai envie de dire, un vol aujourd'hui en région parisienne, malheureusement, c'est banal. Mais moi, à ce moment-là, ça a été l'acte de trop. Vous savez, quand on dit trop, c'est trop, là, j'en peux plus. Moi, j'étais dans cet état-là. Ce vol, j'ai pas été en capacité de tout simplement de l'accueillir et de le vivre. J'en pouvais plus. J'étais. Ce matin-là, en fait, j'étais pas du tout en capacité d'accueillir cette nouvelle épreuve. Tellement j'étais j'en pouvais plus. J'avais plus de force. Quand je témoigne, je dis aux jeunes, un flic, ça a quoi sur lui? Ça a une arme. Ce matin-là, je n'avais pas mon arme sur moi. Je peux vous assurer que si j'avais eu mon arme ce matin-là, je ne serais pas devant vous aujourd'hui à témoigner. Parce que j'étais tellement... j'avais plus de force, j'étais vidée, je n'avais plus rien. D'appuyer sur une gâchette, je peux vous assurer que ça va très vite. J'avais pas mon arme sur moi. Et en plus, retenez bien, parce que j'en reparlerai tout à l'heure, ou si j'oublie, vous me le redemanderez dans les questions, retenez bien que ces faits se sont passés un vendredi matin. Moi, évidemment, j'avais pas la foi, je vais vous le dire tout à l'heure, j'ai pas réalisé ce que j'allais vivre. Mais lui, là-haut, il le savait. On reprendra la parenthèse si j'y pense tout à l'heure. Donc ce jour-là, je n'avais pas mon arme sur moi. On me demande quand même d'aller au service. Le patron, en fait, me demande de... En fait, il y a un collègue qui avait très bien compris que j'allais pas bien. Et d'ailleurs, lui a demandé où était mon arme. Et là, ils ont appelé tout de suite mon patron. Et ils ont dit, si Martine a son arme avec elle, on ne la revoit pas. Il y a un collègue avec qui je partageais et qui savait très bien que j'étais en plein divorce et que ça n'allait pas du tout ces jours-ci. Et c'est la première chose qu'il a dit au patron. Donc ils ont été vérifiés, mon arme était au service. Bien sûr, on a fait écarter mon arme et je n'ai pas eu le droit de la prendre pendant plusieurs mois. Ce jour-là, donc tout le vendredi, on m'a fait relever, j'étais incapable d'aller travailler, donc le patron a appelé quelqu'un pour faire ma permanence. Et on m'a demandé d'aller au service et après on m'a dit « vous rentrez chez vous, vous allez vous reposer ». Je suis rentrée donc chez les amis, chez qui je logeais, qui étaient absents, et je me suis enfermée tout le vendredi après-midi et tout le samedi. J'ai répondu à personne, j'avais coupé mon portable. De toute façon, ma décision était prise. Je voulais mettre fin à mes jours. J'avais plus la force de vivre. Le suicidaire ne cherche pas tant la mort, mais la fin de ses souffrances. Moi, ce matin-là, je me suis dit, puisque la vie m'amène à un tel degré de souffrance depuis le jour de ma naissance, moi, je n'ai pas demandé à vivre, je n'ai pas demandé à vivre non plus tout ce que j'ai vécu. Alors seule la mort pourra me délivrer et me donner enfin le repos de l'âme. Voilà ce qui est venu très rapidement dans mon cœur ce matin-là. Je voulais partir. Dans mon parcours semé de malheurs et de souffrances, je n'ai pas été du tout élevée dans un milieu catholique pratiquant. Certes, j'avais reçu le baptême à 2 ans parce que ma mère était de la campagne et je pense qu'à l'époque, je vous ai dit j'ai 54 ans, je pense qu'à l'époque on baptisait les enfants petits, c'était la coutume. Donc oui, j'avais reçu le baptême. Après, j'ai pas eu de parcours de cathé, j'ai pas communié, chez moi on n'allait pas à l'église et le milieu familial dans lequel je vivais, c'était l'alcool, les violences, les insultes, les bagarres. Le Seigneur, je suis désolée, mais j'en étais bien loin, je ne savais même pas qu'il existait. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça maintenant. En fait, donc, je reviens sur les faits du vendredi. Donc le vendredi, je vous ai dit, je m'enferme tout le vendredi après-midi, tout le samedi. Le dimanche matin, pourquoi que je vais avoir un sursaut de vie, à savoir, j'ai la force de me lever, je m'habille, et je pars dans la commune chez les amis chez qui je suis, je rentre dans l'église de cette commune pour assister à la messe du dimanche. Je ne connais rien à la messe puisque je n'ai pas l'habitude d'y aller. Je m'étais mariée à l'église, mais c'est tout. Et de temps en temps, je rentrais un peu comme tout le monde dans une église, mais ça s'arrêtait là. Je ne connaissais pas du tout le rituel de la messe. Toujours est-il que je vais assister donc à cette messe dominicale. Pendant la messe, je pense que vous connaissez, il y a l'évangile et il y a l'homélie du prêtre. Et le prêtre, en fait, au moment de son homélie, j'ai eu l'impression que j'étais seule à seule avec lui dans cette église, tellement les mots du prêtre sont venus me percuter en plein cœur pendant son homélie. Ne me demandez pas les mots, je ne m'en souviens pas, je ne m'en suis jamais rappelée. Toujours est-il qu'il est venu me percuter et ça a été tellement fort que je suis partie en crise de larmes, en crise de nerfs pendant la messe. Ceux qui me connaissent, en général, je suis quelqu'un d'assez discrète, là, pour être discrète pendant la messe, c'était raté. Vous savez, quand on fait une grosse crise de larmes et qu'on parle en gros sanglots, j'avais du mal à me contenir, donc forcément, on m'a vu et on m'a entendu. À la fin de la messe, dans l'état où j'étais, je ne voulais surtout pas qu'on m'embête, j'ai bien tenté de me carapater, vite fait, bien fait. Et là, il y a une personne qui a mis la main sur mon épaule, qui me dit « Je crois que vous n'allez pas bien, est-ce qu'on peut vous aider ?» Et là, je suis quelqu'un de poli, donc je reste poli, je lui dis « Madame, foutez-moi la paix, plus personne ne peut rien pour moi. » Et quand je lui ai dit « Plus personne ne peut rien pour moi », je pense qu'elle a compris le message qu'il y avait derrière. Et donc, du coup, elle n'a pas enlevé sa main, je n'ai pas pu partir. Elle me dit « Non, non, je ne peux pas vous laisser partir dans cet état-là. » J'ai dit « Bah, de toute façon, là, je suis incapable de parler, tellement j'étais vidée. » Et puis j'ai dit « C'est pas le moment, donc je lui ai dit « Laissez-moi partir. » Cette personne me dit « Il faut que je vous revoie très rapidement. » Et elle m'a fait tenir promesse que je ne ferai pas une bêtise jusqu'au mardi. Donc le mardi, je revois cette personne, et dans l'agressivité qui était la mienne de l'époque, dans la haine, parce que j'avais de la haine envers ma mère, donc je la revois et je lui lâche tout mon parcours. Ça a duré 2 heures, pareil, dans les pleurs, la révolte du moment. Et au bout des 2 heures, elle m'a posé qu'une seule question. Elle m'a dit « Martine, est-ce que tu veux rencontrer un prêtre ?» Et j'ai dit « Oui, je ne sais même pas pourquoi encore aujourd'hui non plus. » Toujours est-il que moi je connaissais personne, et donc cette personne, alors la personne qui a mis la main sur mon épaule, je peux vous assurer qu'elle est très précieuse, parce que je dis aujourd'hui, si je dois mon salut, c'est à 2 personnes. C'est à toi Jésus, parce que vous allez comprendre tout à l'heure, et à cette personne, parce qu'en fait elle a été le premier maillon d'une chaîne d'amour et de foi qui allait se mettre en place autour de moi. Cette personne, donc, elle est devenue ma maman spirituelle. Elle prend contact avec un prêtre, bien sûr, elle m'emmène. Et pareil, le prêtre, pendant 2 heures, j'y déballe mon histoire dans les larmes, les pleurs, la révolte, la haine qui est la mienne à l'époque. Et pareil, au bout de 2 heures, il me dit, Martine, il dit, je vais te donner le sacrement de réconciliation. Je le regarde, je lui dis, oui, c'est quoi ? Ben oui, moi je ne savais pas ce que c'était. Il me dit, bah, t'inquiète pas, je vais passer une étoile et puis je vais prier sur toi, tu te laisses faire. Je me laisse faire, de toute façon, dans l'état où j'étais, j'avais... Si ce n'est que si j'ai dit oui, en fait, je disais oui actuellement à tout ce qui se présentait à moi, je sentais que c'était la dernière bouée de secours qui se présentait à moi, il n'y en aurait pas d'autre. C'était la dernière. Donc ce prêtre me donne le sacrement de réconciliation, et avant de partir, il me dit « Martine, veux-tu continuer un chemin de guérison avec l'Église ?» Et je lui dis oui. Donc il me donne des pistes à suivre. Il va me donner le nom d'une fraternité qui va m'accompagner pendant 2 ans et je commence donc un chemin de catéchuménat avec ma maman spirituelle. Je quitte ce prêtre et le soir même, donc je rentre chez les amis chez qui je logeais. J'étais vidée parce que quand on vit une épreuve comme ça dans une après-midi, j'étais sonnée, vidée, apaisée et en même temps très très vidée. Je rentre, je me couche, et au moment de me coucher, j'attrape un livre que ma maman spirituelle m'avait offert. Le livre s'intitule « Choisis la vie ». Bon, par hasard, hein. « Choisis la vie ». J'ouvre ce livre au jour où je viens de rencontrer le prêtre. Et voilà, en fait, ce livre, ce sont des méditations quotidiennes, dont je le prends à la date où on est le jour même où je viens d'aller voir ce prêtre et je reçois pour la première fois le sacrement de réconciliation. Et voilà ce qui est écrit dans ce livre, à ce jour même. Libère-toi de ce que j'ai pu te transmettre. Je ne veux pas que tu ne retiennes de moi que la difficulté de vivre, que le négatif de la vie, comme tu me l'as si souvent entendu exprimer. Je ne veux pas non plus que tu t'identifies à mes compensations, à mes échecs, à mes refus, à mes violences. Si tu savais combien ce serait douloureux pour moi de te voir reproduire le modèle que, sans le vouloir, je t'ai donné. Regarde bien en face l'être blessé que j'ai été. Essaie de comprendre ce que j'avais reçu de mes parents. Fais-toi aider par un accompagnateur et laisse derrière toi sans culpabilité, tout ce qui te fait horreur dans ma vie, je ne suis pas tout cela. Bien que j'ai franchi les portes de la mort, je veux maintenant être un père, une mère pour toi, et je ne te quitterai plus. Quand tu es triste, quand tu souffres, je suis auprès de toi et je t'encourage. Je le ferai d'autant plus ardemment que je n'ai pas su être à tes côtés quand tu étais adolescente et que ton comportement aurait dû me montrer combien tu manquais de père, de mère. Aujourd'hui encore, j'en frissonne quand je suis. J'ai lu, je l'ai relu, j'étais une fontaine. Au fur et à mesure des mots, ça dégoulinait. Je me suis pincée. Je rêve, j'ai regardé le jour. Impressionnant. Et là, je me suis dit, là-haut, il y a quelqu'un qui commence à s'occuper de moi. Aujourd'hui encore, j'en ai des frissons quand je le lis. Tellement c'est pas de la science-fiction, c'est la vérité. Donc, avec tout ça, je commence un chemin en Église. Je vais commencer mon entrée en Église. Je vais être accompagnée pendant 2 ans, donc avec ma maman spirituelle, et par une fraternité que je vais rencontrer régulièrement. Au bout de ces 2 ans, la fraternité, un jour j'arrive à mon rendez-vous et je dis à l'accompagnatrice, bah, écoute, on va plus se voir parce que ça fait 2 ans qu'on se voit, et j'ai l'impression que j'ai plus rien à te dire. Mais en fait, je lui dis comme ça, je dis, écoute, le Seigneur là, que vous essayez de me faire connaître là, depuis 2 ans, ben, moi, je ne le connais toujours pas bien, je ne sais pas prier, et puis en fait, je faisais 2 pas en avant dans l'église, mais le malin, il me tirait en arrière, j'en faisais 5 en arrière, j'étais toujours en souffrance, parce qu'il faut des années avant d'être complètement guéri, et je lui dis, mais j'ai envie d'aller mettre à l'écart la société. Déjà, j'étais flic à Paris, donc boulot difficile. Et j'ai dit, mais ce Seigneur-là, j'ai envie d'aller me mettre à genoux devant lui. J'ai dit, envoie-moi quelque part pendant 8 jours. Et elle me dit, Martine, j'ai tout à fait ce qu'il te faut. Et je suis partie comme ça dans une communauté religieuse pendant 8 jours. Je ne savais même pas que les communautés religieuses existaient. Donc ça a été ma première immersion dans une communauté. Dans cette semaine où je suis partie sur une session bien spécifique, puisque c'était quand même une semaine de guérison intérieure basée sur la parole, il va se passer beaucoup de choses. On m'a ramassée tous les jours. C'est sûr que le travail de lâcher prise a commencé. Et je suis arrivée le dimanche et je devais repartir le samedi. Et le jeudi, j'allais pas bien du tout le jeudi après-midi. Et je dis, j'avais un accompagnement le matin, personnalisé, le matin et l'après-midi. Et l'après-midi, je dis à l'accompagnatrice, je dis, écoute, je ne sais pas ce que j'ai, mais je ne vais pas bien du tout. J'avais une boule, vous savez, quand on dit on a une boule à l'estomac, j'avais une boule à l'estomac, je n'allais pas bien du tout. Et je dis ça à l'accompagnatrice. Elle me dit, écoute, elle dit, Martine, moi je sais ce qui t'arrive. Ouais. Elle me dit, c'est vrai, tu as lâché beaucoup de choses depuis que tu es arrivée ici. Elle dit, c'est vrai, on t'a ramassé tous les jours. Mais elle dit, maintenant, le Seigneur vient te demander encore d'avancer. Elle me dit, le Seigneur vient te demander d'aller au pardon à ta mère. Et là, quand elle a lâché le mot pardon, je me suis mise à hurler. Je ne vais pas vous le faire ici, mais je me suis mise à hurler. J'ai dit non, là, impossible. Quand elle m'a parlé du mot pardon, j'ai vu les 6 lettres du mot pardon et le visage de ma mère, violente, le bourreau qu'elle avait été pour moi, et la reliance des 2 bulles pour moi, impossible. Donc je lui lâche ça, mais vraiment encore dans la colère qui était la mienne. Et je lui dis non, j'ai là ça, je peux pas. J'ai dit, franchement, je peux pas. Elle me dit, Martine, j'entends bien ta colère, elle est légitime, mais elle dit, c'est ce que le Seigneur te demande maintenant. Et l'accompagnatrice s'en va. Ah, j'allais encore plus mal. La boule, c'était devenu un ballon de baudruche à l'intérieur de moi. J'ai dit, mais là, je vais exploser, tellement j'allais pas bien. J'étais dans le parc, un peu comme ici, de la communauté, et j'ai dit, là, il faut que j'aille me mettre à genoux, là, il faut que j'aille prier, parce que je dis, là, qu'est-ce que je fais, moi, avec ça? Et là, sur le chemin qui m'emmène du parc à la chapelle, le Seigneur s'est manifesté à moi, à ce moment-là. Ma conversion, moi, vient de là, et J'ai compris à ce moment-là que le Seigneur venait me dire ce chant que l'on a pris en entrée. « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime et moi je te veux en vie. » Le Seigneur s'est manifesté à moi dans le parc en me disant « Martine, en partant d'ici dans 2 jours, je t'offre pas 50 chemins, je t'en offre pas 10, je t'en offre pas 5, pas 4, pas 3, je t'offre 2 chemins. » Et je ne connaissais pas encore les textes à l'époque. Chemin de vie, chemin de mort. Chemin de vie, tu vas en pardon à ta mère et moi je te veux vivante. Parce que je t'aime et tu as du prix à mes yeux. Si tu ne fais pas ce chemin de pardon à ta mère, tu reprends tous tes chemins de mort qui jalonnent ton existence depuis toujours. Voilà ce que je reçois dans mon cœur en allant à la chapelle. Bien sûr, l'accompagnatrice n'était pas loin et je lui dis ce que je viens de recevoir. Elle avait un petit sourire, elle me dit « Martine, c'est exactement ce que le Seigneur te demande. » J'ai dit « Mais je ne peux pas !» J'ai dit « C'est pas que je veux pas, je ne peux pas !» Et c'est vrai, c'est pas vous qui allez me dire le contraire, il y a des pardons sur un plan humain qu'on ne peut pas donner. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je n'ai pas demandé à vivre au monde, je n'ai pas demandé à vivre ce que j'ai vécu, mais de là à pardonner, moi, ma mère, c'était impossible. Donc, je lui dis, on s'en va à la chapelle, je me mets à genoux devant l'autel. Alors là, pareil, hein, une fontaine. Hein. Des larmes, j'en ai lâché dans les chapelles et dans les églises. Hein. Et là, je dis maintenant, je dis, Seigneur, si c'est vraiment ce que tu veux pour moi, alors pardon, toi, viens me le mettre dans mon cœur. Parce que moi, sur un plan humain, je suis un être humain, avec ses fragilités, avec toutes ses blessures, je ne peux pas. L'accompagnatrice a prié sur moi, avec moi. Je suis en partant d'ici, bien sûr, c'est là que le Seigneur s'est manifesté dans mon cœur. Et j'ai écrit une lettre tout de suite en quittant la chapelle à ma mère qui paraît dans le livre. Et je lui dis « Maman, voilà, je viens de faire une rencontre dans mon cœur personnel avec ce Père du ciel. Je suis son enfant et je viens de comprendre que lui m'aimait. » Que tu n'avais pas le droit de me faire tout ce mal, mais parce qu'il me veut en vie, moi je veux maintenant vivre, mais libre. Je ne veux plus être enchaînée à toi par notre histoire, par notre passé. Cette lettre, en partant de la communauté, j'ai été la lire sur la tombe de mes parents. Je me suis mise à genoux, et pareil, hein, ça dégoulinait, et j'ai lu cette lettre à ma mère. Celui qui pardonne, il soigne d'abord les blessures de son propre cœur. Certes, j'ai libéré ma mère, mais moi aujourd'hui je suis libre avec mon histoire. C'est ce qui me permet aussi aujourd'hui de pouvoir en parler. Le pardon n'excuse pas, le pardon, ce n'est pas l'oubli, mais c'est avoir un autre regard. Aujourd'hui j'ai un autre regard sur mon histoire. Bien sûr, je vais essayer de conclure. Aujourd'hui, j'ai une vie de prière. Si je vis, c'est parce que j'ai le Seigneur tous les jours dans ma vie. Je me suis approprié la prière de Charles de Foucault. « Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. » Cette prière, pour moi, elle est, je vous ai dit, j'ai pas de famille. Je vais pas vous dire que ma vie au quotidien, elle est facile. Mais parce que j'ai le Seigneur et que je prie tous les jours, j'avance chaque jour dans ma vie. La miséricorde, c'est la tendresse, l'amour de Dieu, notre Père du ciel, pour nous tous, ses enfants. La miséricorde de Dieu, c'est le pardon de tous nos péchés. La miséricorde, elle passe par ce sacrement de la réconciliation, qui est un sacrement de paix intérieure, de guérison et de libération. Moi, Martine, en recevant la miséricorde du Seigneur, j'ai pu à nouveau aimer ma mère. Celle que je haïssais, qui avait été mon bourreau durant des années. Seule, la miséricorde du Seigneur m'a donné cette force de pardonner à ma mère. Ma dernière action de grâce, elle sera pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de tous ces changements de comportement dans ma vie. Merci, Seigneur, de cette vie nouvelle que tu fais couler dans mes veines et dans mon cœur. Ton amour, Seigneur, pour moi, a eu le dernier mot sur toute la pourriture de ma vie passée. Seigneur, sans toi aujourd'hui, moi Martine, je ne suis rien. Sans toi, Seigneur, moi Martine, aujourd'hui, je ne puis rien. Je n'oublierai jamais d'où je viens. Premier sacrement de réconciliation. Déjà, je vous ai dit, je ne savais pas ce que c'était, donc je ne savais même pas ce qu'il allait en gros faire. Bon, il m'a dit, je vais passer une étoile et je vais prier. Moi, en fait, j'étais vidée en plus, donc je me suis laissée faire quelque part. Après, j'ai compris que je suis partie en quittant le prêtre, j'étais en paix. Alors, bien sûr, pas avec mon histoire, parce qu'il y a un travail. Moi, ma conversion date d'il y a 10 ans l'année dernière, mais il y a eu des années de travail. En chemin, je dirais. Mais en fait, le prêtre, par ce sacrement, il a commencé, je pense qu'il a su où toucher, il a commencé une petite brèche. Et par cette petite brèche qu'il a commencé à ouvrir dans mon cœur, par ses mots et par ce que j'allais recevoir avant de le quitter, il a commencé à y mettre du goutte à goutte de l'amour de Jésus dans mon cœur. Ça a commencé là, par ce sacrement de la réconciliation. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Elle n'est pas facile, donc j'essaie d'y répondre comme je peux. Alors, je vais peut-être rebondir là-dessus sur quelque chose que, pour l'instant, peu de personnes savent, parce que c'est tout récent. Je viens de vous raconter mon histoire, brièvement quand même, et bien sûr, avec un tel passé, il reste toujours des restes. Donc, Martine, même si elle va bien, il y a encore des chutes, il y a encore... voilà. Et puis, en fait, comme je témoigne beaucoup, il y a un jeune qui est venu il n'y a pas longtemps me mettre une parole dans mon cœur qui ne me quittait pas. Et je me suis dit, cette année, c'est l'année de la miséricorde, le jubilé de la miséricorde. Et je me suis dit, Martine, il faut que tu oses cette année aller demander le sacrement de réconciliation, mais aussi l'indulgence plénière. Et j'y suis allée la semaine dernière. Et en fait, de nouveau, dans ce sacrement de réconciliation, j'ai pu de nouveau demander pardon, même pour encore sur des choses pour lesquelles je l'avais peut-être déjà reçu. Le prêtre, c'est ce qu'il m'a dit, mais pour moi, qui n'était pas encore guéri. Vous voyez, je vais vous le dire pourquoi, j'ai rien à cacher. J'ai été redemander le sacrement de réconciliation pour mes IVG. Vous croyez que c'est facile de porter des IVG? Non. D'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai la foi. Même si aujourd'hui j'ai obtenu une nullité de mariage, mais ces IVG, ils sont là, ils sont présents tous les jours dans ma tête, parce que j'ai fait un acte lourd à porter. Et du coup, j'ai pu le lâcher comme ça devant le prêtre, et le prêtre m'a de nouveau donné le sacrement de Dieu pour ces actes, pour ces petits êtres que je n'ai pas été en capacité d'accueillir. Et du coup, par l'indulgence plénière, il est venu de nouveau mettre un baume sur toute mon histoire. Et c'est vrai que je vois la différence, parce que depuis 8 jours, je vais très bien. Donc moi, c'est merci Seigneur. Exactement, exactement.
C'est
j'ai pas la réponse, mais je vous dis, moi, la première fois que je l'ai lu, je l'ai décortiqué. Je me suis dit, mais je suis en train de lire quoi? Je me suis dit, je rêve, c'est pas possible. Oui, c'est une méditation quotidienne, mais le jour, j'aurais pu aller voir le prêtre la veille ou le lendemain. Non, j'y vais ce jour-là et c'est écrit ça ce jour-là. D'ailleurs, l'écrivain a marqué dans le livre, on a l'impression que c'est la mère de Martine qui a écrit cette méditation pour elle, quoi. J'ai l'impression que c'est ma mère qui me parle à travers ces mots. C'est très fort. Enfin, je veux dire, moi, en plus, j'étais en début, je dirais, c'était vraiment, je commençais à rentrer en église, ça faisait beaucoup, là, sur une même journée. Sacrement de réconciliation, puis ce texte-là, le soir, j'ai bien dormi après. Non, c'est jamais facile de témoigner, je pense que vous l'avez senti au début. Alors après, au fil du temps, du témoignage, ça va mieux, mais le démarrage est jamais facile. En fait, je voulais dire, la première fois dont j'ai été contactée par une paroisse, donc moi j'arrive de l'Oise, j'étais dans l'Oise à l'époque, et une paroisse qui me connaissait un petit peu me dit, en fait c'était au début du carême, ils avaient mis un parcours en route au début du carême qui allait les emmener jusqu'à la Pentecôte. Et moi c'était pas l'église où j'étais rentrée pour la première fois dans la commune, où après j'ai continué un petit peu un chemin avec eux. Non, c'était dans une autre paroisse, mais comme j'étais flic, j'allais de temps en temps à cette paroisse-là pour avoir la messe du dimanche soir, en fait, en fonction de mes horaires policiers. Et quelqu'un de cette paroisse me contacte en me demandant de venir témoigner. Là, je lui dis non, je m'en sentais incapable, et en même temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'arrivais plus du tout à me concentrer. Et en fait, aujourd'hui encore, je sens que je suis... Il y a un prêtre qui... Alors évidemment, dans ce que je vis, j'ai besoin d'être accompagnée. Il y a un prêtre qui m'a dit, mais Martine, aujourd'hui, tu es instrument du Seigneur. Je le sens bien. Et je sens qu'aujourd'hui, le Seigneur me demande d'aller sur les routes, d'être témoin de mon parcours, mais aussi de ses bienfaits dans ma vie, d'être témoin de la miséricorde cette année, parce que là, je n'arrête pas de répondre à des demandes de témoignage. Par contre, à côté de ça, donc j'essaye de répondre, moi, à ce que je ressens du Seigneur. Vous avez bien compris, aujourd'hui, moi, j'ai personne, j'ai pas de famille, donc ma vie, elle est vraiment tournée aujourd'hui dans l'abandon et la confiance totale dans les bras du Père. Je vais pas vous dire que c'est facile tous les jours. Moi, je mène des combats, et actuellement, comme je témoigne beaucoup, il y a toute une chaîne de prêtres et un Carmel aussi qui prient pour moi. J'ai besoin d'être soutenue par la prière, parce que une fois, en fait, je suis partie témoigner sans prévenir personne auprès de jeunes. J'avais fait 2 témoignages dans la journée, et en fait, j'ai pas pu me lever pendant 3 jours le lendemain. Et là, un prêtre m'a dit « Mais Martine, t'es dans le combat spirituel ». Et j'ai dit « Mais c'est quoi ?» Je ne savais pas ce que c'était. Je vous assurais qu'aujourd'hui, le combat, je sais ce que c'est, parce que l'autre, il ne lâche pas. Et en même temps, évidemment, je suis... Le malin était dans ma vie, il était dans la chaîne généalogique de ma mère, et moi, j'étais suicidaire très très longtemps, même au début de ma conversion. Donc le malin, en fait, il se dit, mais je les ai tous récupérés dans cette famille, sauf elle. Donc je pense que ça le dérange beaucoup quand même qu'aujourd'hui j'aille sur les routes pour témoigner du Seigneur et de sa miséricorde et de son amour. Et du coup, bah, j'ai besoin d'être soutenue par la prière. Mais en même temps, je ne vais pas témoigner pour moi. J'accepte d'aller témoigner déjà parce que je sens que le Seigneur me demande cette mission et que j'ai un message d'espérance aussi à faire passer. Là, vous êtes des adultes, mais je témoigne aussi de beaucoup devant des jeunes. Et quand je vois le travail que je fais dans le cœur des jeunes, je me dis, mais il y a tellement de besoins aujourd'hui dans la société de nos jeunes qui sont en souffrance. Et j'ai fait 2 témoignages auprès de jeunes jeudi, et je leur ai dit, si moi, Martine, j'étais aussi cabossée que vous, voire peut-être plus, si moi je m'en suis sortie, alors à vous aussi c'est possible. Tout comme vous, adultes ici, peut-être que vous aussi, vous avez des blessures, vous avez peut-être un pardon à aller donner. Si moi, j'y suis arrivée à une mère qui a été un bourreau durant des années, alors à vous tous ici présents, c'est possible. J'ai quitté la police il y a 2 ans. En fait, je me suis retrouvée... pendant 1 an, j'étais en discernement. Mais comme je pense que vous avez compris, j'ai une vie de foi. Donc tout ce que je vis aujourd'hui, je le remets dans la prière, même si des fois c'est dans les larmes. Tout ce que je vis est remis dans la prière, même si des fois c'est difficile. Et il y a 2 ans, enfin 3 ans maintenant, j'ai eu un combat au niveau de mon travail, un flic. Je ne me retrouvais plus dans ce qu'on me demandait et qui j'étais devenue moi aujourd'hui. Mais en même temps, le Seigneur m'a complètement transformée. Moi, je suis plus du tout la Martine d'il y a 15 ans. Et du coup, j'étais plus en phase avec qui j'étais et le métier de policier. Et puis, malgré tout, depuis très très longtemps, j'avais toujours cette petite lumière au fond de moi qui brillait, qui me disait « Martine, t'as été cabossée et ce serait bien que t'ailles travailler auprès des jeunes cabossés ». Mais j'ai cette fibre, quelque part, tout le monde me dit « Mais t'as ce talent pour aller vers eux ». Et du coup, j'avais vraiment ce désir. Donc, je l'ai remis dans la prière. Et en fait, j'ai quitté la police vraiment guidée dans la prière par le Seigneur. Donc aujourd'hui, j'ai fait une formation d'éducatrice. Alors évidemment, j'ai mon parcours qui m'aide beaucoup. J'ai ce que je suis, moi, Martine. J'ai mes 28 ans de police, ça aide pour aller travailler auprès des jeunes. Et puis j'ai cette petite fibre qui me dit oui, tu dois aller vers ceux qui sont encore aujourd'hui qui vont pas bien. Moi, j'en côtoie beaucoup puisque je témoigne dans les établissements. Et faut voir les jeunes que je retrouve. Je les invite après à venir vers moi en toute simplicité, ceux qui vont pas bien, ceux qui veulent me parler. Et j'en accompagne quelques-uns, quelques-unes. Et j'essaye de faire ce que je peux avec eux, tellement les besoins sont énormes. Alors j'ai un autre projet, là pareil, qui est remis dans les mains du Seigneur, parce que je ne fais rien sans que j'ai vraiment les signes et qui me guide. Mais je suis de nouveau titillée là dans ma mission. Donc je me dis, si tu me voulais tranquillement, là aujourd'hui je suis éducatrice dans un internat, dans un lycée privé en Mayenne. J'aime ce que je fais, mais je sens que ma mission finale n'est pas là. Et je me suis dit, Seigneur, si vraiment tu me veux, tu veux que je reste là, tu vas me laisser tranquille. Seulement là, je suis de nouveau titillée depuis la dernière rentrée. Donc je me dis, c'est pas là que tu me veux encore ailleurs. Donc là, je suis en chemin avec plusieurs prêtres et plusieurs personnes pour mettre en place. En fait, je voudrais faire du coach. Alors, j'aime pas ce terme de coach, mais de plus faire de l'accompagnement personnalisé auprès des ados ou voire de grands jeunes en difficulté. Et j'accompagne aussi, là, j'y serai la semaine prochaine, je suis très proche de la communauté Saint-Jean-Espérance qui accueille des anciens toxicos. Donc j'ai aussi un échange avec les jeunes, puisque si j'avais pu, moi j'aurais aimé ouvrir une maison pour accueillir justement des jeunes cabossés. Et je sens que ma mission finale, je pense que le Seigneur, c'est là qu'il m'appelle. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? On dit toujours, enfin c'est pas, voilà, je connais, le Seigneur fait d'un mal un bien. Et je pense qu'en fait, à partir du moment où je lui dis oui tous les jours dans ma vie, même quand ça va pas bien, je lui dis oui, et bien finalement, il va pas me lâcher, il va se dire, mais elle a vécu ce qu'elle a vécu, mais en même temps, comme elle est maniable parce qu'elle me dit oui, et qui sait qu'il y a des besoins auprès des jeunes aujourd'hui, je pense qu'il me guide vers cette mission. De tout mal, il fait un bien. Ça, aujourd'hui, j'en suis persuadée. C'est sûr que, vous avez bien compris, pendant mon enfance, mon adolescence, le Seigneur... alors peut-être comme je connais pas tout, c'est Job, je crois, qui a dit « Il était là, mais je ne le savais pas. » Il m'a laissé en vie, donc je pense quand même... J'avais été baptisée et je me dis ce baptême, je pense, pour moi, a été une force. Sans le savoir, mais aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je me dis... J'ai un deuxième merci à dire à mes parents, c'est de m'avoir donné ce sacrement du baptême. Je pense que ça a été une force pour moi d'avoir été baptisée. Mais effectivement, il ne s'est pas manifesté à moi pendant toutes ces années, mais il m'a permis peut-être de rester en vie. Après, je n'ai pas toutes les réponses. C'est sûr, on dit la foi est un mystère. Oui, quand je vois moi mon histoire, des fois je me dis mais pourquoi. Et puis même encore aujourd'hui, des fois ça va tellement vite, je me dis bah oui, ça reste un mystère. Je n'ai pas toutes les réponses.
En tout cas, la foi est bien que Dieu ne peut pas.
sûr que moi, je l'ai dit tout à l'heure, moi, ceux qui me connaissent, enfin, qui m'ont connu avant que j'ai la foi, enfin, avant cette conversion, j'ai des amis très très proches, parce que je vous dis, j'ai pas de famille, donc les amis que je crée sont importants pour moi. Et puis je crois que les gens m'apprécient pour ce que je suis, moi Martine, mais ils me disent, mais Martine, nous on te reconnaît pas, quoi. Et c'est vrai, moi je vois bien aussi, moi la Martine que j'étais avant, je voudrais même pas qu'elle existe aujourd'hui, parce que j'aurais peur en même temps de mes actes. Tellement j'avais de la violence en moi, j'étais agressive, j'étais méchante, un peu comme ma mère. Et donc moi, le Seigneur m'a complètement transformée. Je suis une autre personne. Comme l'a dit le Père, c'est une renaissance. C'est une totale renaissance. Moi-même, des fois, je ne me reconnais pas. Alors, je préfère être celle que je suis aujourd'hui, hein, parce que... Il n'y a pas photo. C'est merci Seigneur, ça c'est sûr. Je pense que j'avais quand même cette force du baptême en moi, parce que des fois, il y en a qui m'ont dit « Mais Martine, d'où tu viens puiser cette force en toi ?» Même quand j'étais jeune, on me le disait. Alors que ce soir, j'étais par terre, on ne me voyait pas. Mais après, effectivement, le Seigneur se manifeste à chacun d'entre nous. On est tous enfants de Dieu, baptisés ou non. Après, c'est à nous de lui répondre oui ou non, bien sûr. Moi, j'ai eu plusieurs accompagnateurs, actrices, et il y en a une qui m'a dit « Mais Martine, si tu y avais dit non, je sais très bien moi aujourd'hui que si j'avais dit non, je ne serais plus en vie aujourd'hui. » Ça, c'est sûr, parce que je ne voulais plus vivre comme je vivais. J'avais plus la force. Donc à partir du moment où le Seigneur est venu me chercher, moi, il est venu vraiment, et j'ai dit oui, voilà ce qu'il a fait de moi aujourd'hui. Mais j'ai dit oui, et encore aujourd'hui, je dis oui.
J'ai été, disons, exclue d'un village aussi, du fait que lorsque
Pour conclure, parce qu'on a un timing qui doit. Voilà. J'ai vous répondre en deux mots. J'ai pas dit que le pardon était facile. Et c'est vrai que plus l'offense est grande, plus le pardon va être difficile. Mais ce que vous pouvez faire, c'est demander, comme moi, je vous l'ai dit, ce pardon était sur un plan humain, était impossible. Mais à vous de demander dans la prière, Seigneur, ce pardon vient me mettre dans mon cœur et il va vous le mettre. Voilà.
Il y a une dernière question peut-être, hein, une dernière question et on arrête là.
Au niveau des questions.
Oui, madame, je peux comprendre tout à l'heure quand vous avez dit, j'ai un frère cordonnier et j'ai dit je t'aime à votre maman.
Non, alors j'ai fait ce chemin de pardon, ma mère était décédée, parce que mes parents ils se sont détruits tous les deux par l'alcool. Ma mère est décédée, moi j'avais que 24 ans, mon père a suivi 3 ans derrière, et moi ma conversion date d'il y a 10 ans, hein. J'ai fêté mes 10 ans l'année dernière, mais on peut faire un chemin de pardon sur quelqu'un qui est décédé. Moi je suis allée sur la tombe après, et en fait, je vais vous dire comment je sais ce pardon, moi il est donné, on me le demande souvent, je vous ai dit, bah, le livre finit comme ça, « Maman, je t'aime », c'est quelque chose que j'avais jamais pu dire. Moi, je haïssais ma mère, je la détestais. Là, j'ai pas honte de le dire, c'est la vérité. Maintenant, oui, effectivement, aujourd'hui, « Maman, je t'aime ». À chaque fois que je reçois l'Eucharistie à la messe, je prends le temps, s'il y en a qui m'ont vu ce matin, je prends le temps devant la croix quand je reçois l'Eucharistie, et c'est « Papa, maman, je vous aime. Maman, je t'aime. » À chaque fois, je reçois l'Eucharistie. Et pour moi, c'est important d'être en communion régulièrement avec ma maman. Et je vous le dis, j'en ai des frissons, hein, pour vous dire à quel point c'est important pour moi.
Merci. Merci beaucoup.